Première table ronde.
Première table ronde de ce colloque éthique, superbement introduit par Sophie de Menton et Patrick Erard. On est dans le thème de la santé, santé entreprise, le grand défi. Et voilà, quatre experts pour nous parler de ce qui se passe en ce moment sur la santé au travail. Qu'est-ce qui a changé peut-être depuis ces dernières années, notamment avec la crise sanitaire? On en parle avec nos experts. Christelle Charvet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes gynécologue obstétricienne et spécialiste de l'homéopathie. Bienvenue à vous. Avec vous, on va s'interroger comment conserver une bonne santé en entreprise. Voilà, comment sensibiliser, comment prévenir éventuellement. À vos côtés, Marc Soubiran, bonjour.
Bonjour.
Directeur général de l'Institut supérieur de rééducation psychomotrice. Quelle perspective pour le métier de psychomotricien? Voilà, et plus généralement, comment ça va se passer dans nos entreprises. On va également parler de la santé qui commence dès le plus jeune âge avec Lynn Vissoveil. Bonjour Lynn.
Bonjour.
Vous êtes présidente de Globe Educate. Et avec vous, on va voir que ben voilà, il y a des pathologies aussi pour nos chères têtes blondes, j'allais dire, en tout cas les plus jeunes, hein, et nos ados qui ont un petit peu souffert peut-être de cette crise sanitaire. En tout cas, on a pas mal de choses à dire pour prévenir aussi dès l'école et instaurer une bonne santé. Et enfin, Philippe Véran, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes président directeur général de Biotech Dental. Bienvenue à vous. Et avec vous, on va voir comment investir dans le savoir-faire médical grâce à l'intelligence artificielle. Parce qu'il faut maintenant, dans n'importe quel débat, avoir le thème de l'intelligence artificielle. Bienvenue à vous tous. On démarre, si vous voulez bien, avec vous, Christelle. Christelle Charvet, donc, vous êtes gynécologue, obstétricienne, homéopathe. Je voulais avoir votre retour d'expérience, je vous le demandais à l'ensemble d'entre vous, sur justement peut-être cette séquence qu'on a eue. On a l'impression qu'on a peut-être des fragilités qui sont apparues. On n'a jamais parlé en fait autant de santé depuis la crise sanitaire.
Alors, je suis complètement d'accord avec vous. Et moi, je l'ai ressenti même dans des consultations gynécologiques,
oui,
où on a vu apparaître des douleurs pelviennes. Et là, on est vraiment dans le ressenti. Donc, il faut savoir que notre organisme est dirigé par un cerveau et que le cerveau communique avec les autres organes et que tout ce stress peut déclencher, oui, des symptômes, en particulier douloureux, dans différentes sphères du corps.
Alors, pour rester dans votre domaine, on m'a même rapporté que durant les phases de confinement, il y a eu beaucoup d'aménorrhées, d'arrêt des règles chez des femmes. Complètement, elles se remettaient au travail, ça reprenait, on était reconfinés de
nouveau.
Complètement,
donc on a eu des troubles du cycle, oui, tout, oui, à fait, hein, puisque notre cerveau, donc l'hypothalamus, influe sur les ovaires. Donc effectivement, on a eu ces problématiques-là.
D'accord. Est-ce que, justement, on peut prévenir ces troubles? Comment finalement on essaye, c'est très général, hein, on essaye de se maintenir, ou quels sont, allez, pour être plus spécifique, est-ce qu'il y a d'autres troubles qui sont apparus, justement, à part ceux des femmes? Est-ce qu'il y a des choses que, voilà, dont on parlait pas et dont on parle beaucoup plus aujourd'hui?
Oui, bien sûr. On a eu des évolutions de pathologies comme l'endométriose. On a des pathologies sociétales qui apparaissent comme les ovaires micropolykystiques dont on entend beaucoup parler et qui sont vraiment des dysfonctionnements hormonaux des jeunes femmes. On a par exemple des douleurs de règles chez des jeunes filles de 13-14 ans qu'on n'avait absolument pas, moi, quand j'avais 13-14 ans.
C'est vrai.
Voilà. Donc, on sait l'impact des perturbateurs endocriniens. Donc, on parle de prévention. Et alors, vraiment, en prévention, on a des choses à faire. C'est pas trop tard. Donc, je fais un appel aux générations qui nous suivent. C'est à vous, les jeunes, de prendre ça en main et de protéger la planète des perturbateurs endocriniens pour protéger les femmes.
Ouais, ce serait pas mal, même si c'est compliqué. Oui. Tiens, on a eu un mini débat dans l'introduction avec Sophie de Menton qui critiquait ce congé justement sur les règles douloureuses. Vous en pensez quoi? Est-ce qu'il fallait l'ériger justement comme un congé, ou est-ce que finalement c'était une convention, voilà, un collaborateur, une collaboratrice plutôt qui pouvait pas venir, on lui laissait sa matinée, finalement, sa journée.
Alors, c'est un grand débat. Pour moi, ça stigmatise les femmes quand même, hein, avec une différence. Alors après, on n'est pas les égales des hommes, on est différents, voilà. Donc, il n'y en a pas un mieux que l'autre. Ceci dit, accorder des congés menstruels aux femmes, ça va reposer sur la confiance, c'est-à-dire, est-ce que réellement leurs règles les empêchent de venir travailler? Et ça, malheureusement, moi, je ne vois pas comment un chef d'entreprise va pouvoir gérer ces situations-là avec tous les 28 jours. Et puis, moi, je commence à voir des patientes, par exemple, qui me disent « Mais j'ai des règles légèrement douloureuses. Vous ne pouvez pas chercher une endométriose ?» Alors, bah oui, si vous voulez. Pourquoi? Parce que j'ai vu que si j'avais une endométriose, j'allais pouvoir avoir droit à des aides, etc.
D'accord.
Donc, il faut vraiment faire attention, parce que ça peut déboucher sur des abus, ça peut déboucher sur, oui, sur des certificats médicaux qu'on va faire pour obtenir des choses qui ne seront pas, qui seront préjudiciables aux entreprises.
D'accord, on a la parité justement sur ce plateau, on va faire un petit sondage, vous voyez Marc qui réagissait à vos côtés, Marc Soubiran. Tiens, qu'est-ce que ça vous évoque ce débat, vous partagez, est-ce qu'on devait institutionnaliser ce congé règle douloureuse?
Alors c'est difficile de répondre parce que c'est des sujets où à la fois on a envie de faire preuve d'empathie et comprendre en effet que voilà, il y a des personnes qui peuvent, enfin des femmes qui peuvent vraiment être très atteintes et empêchées de travailler. Maintenant, c'est la question de la confiance et c'est là où je pense que parfois c'est difficile de faire des lois sur un certain nombre de sujets pour lesquels c'est presque du cas par cas. Mais comment est-ce qu'on gère réglementairement le cas par cas et comment est-ce que aussi on fait confiance aux employeurs, parce qu'il y a aussi des mauvais employeurs qui sont pas très gentils, qui font pas attention au bien-être de leurs employés. Donc si on avait la réponse, il y a un vrai sujet aujourd'hui sur la confiance, à mon avis, entre les employeurs et les employés, qui va encore une fois dans les deux sens. Alors moi, je suis employeur, donc en tout cas pour ce qui me concerne, j'essaie de faire de mon mieux pour m'adapter et écouter mes employés. Je pense qu'il y a quand même un vrai sujet de communication aussi. C'est-à-dire que cette relation de confiance, elle n'est pas automatique non plus. Il y a quand même un process et les deux parties doivent travailler ensemble. Mais là aussi, faire une réglementation ou une loi là-dessus, ça me semble un peu compliqué. Et ça passe sans doute par l'éducation, former bien les managers de demain sur ces sujets. Donc, il faut travailler ça en amont, à mon avis.
Lynn Vissovel, réaction là justement sur le même sujet, si vous le souhaitez.
Alors, moi, je rejoins le docteur Charvet. Je pense que ça stigmatise les femmes. On a œuvré toutes pour obtenir des postes à responsabilité. Et je pense que ça ne va pas dans le bon sens. Je pense qu'on a une chance aujourd'hui aussi qui s'appelle le télétravail. Et que, on peut très bien dire à son manager, tel jour, je vais télétravailler. Ouais. Et c'est un moyen aussi d'être soulagé, je pense, pendant ces périodes-là. Donc, je ne suis pas très favorable pour ces raisons.
Philippe Véran,
juste rajouter sur le télétravail que malheureusement, pas tous les postes peuvent être télétravailler et donc il n'y aurait pas non plus d'équité sur cette problématique-là si on devait légiférer. Donc je crois que vous l'avez dit, c'est compliqué, je pense, de régler un problème toujours par une loi. Et je crois qu'il y a des médecins pour ça aujourd'hui et pour les femmes qui souffrent vraiment de règles douloureuses, je crois qu'aujourd'hui elles peuvent aller voir leur médecin et être arrêtées si vraiment c'est quelque chose qui n'est pas supportable. Après aujourd'hui, il faut peut-être aussi se mettre un peu à la place des entreprises. Donc on a connu cette crise sanitaire qui a quand même changé beaucoup notre façon aujourd'hui, de pouvoir manager nos personnels et aussi la relation de nos personnels par rapport à l'employeur. Mais il faut penser à l'organisation de l'entreprise. Donc s'il faut aussi rajouter à ça un congé de menstrualité pour les femmes, moi personnellement, en tant qu'employeur aujourd'hui et avec une entreprise où on privilégie justement l'emploi des femmes, parce que c'est extrêmement important, et c'est pas qu'une problématique d'équité, donc nous on a plus de femmes que d'hommes dans notre entreprise, ça poserait des problèmes d'organisation qui seraient complètement insolubles, donc attention au danger.
Tiens, gardez la parole, vous allez justement nous présenter ce que fait Biotech Dental.
Mais Biotech Dental, c'est une entreprise que j'ai cofondée et donc que je dirige depuis une trentaine d'années. C'est aujourd'hui le leader français des implants dentaires et des solutions de réalignement de dents par dispositifs transparents. Donc vous savez, c'est les fameuses gouttières invisibles, donc qui sont très à la mode et on en parlait tout à l'heure avant de commencer. Donc effectivement, la crise sanitaire complètement exacerbé, cette folie pour les aligneurs dentaires parce que les gens.
Pourtant, derrière le masque, on a pris conscience que
on a enlevé le masque avec les vidéoconférences, donc je crois que c'est cette façon aujourd'hui et par le télétravail Donc d'avoir un visage toujours devant un écran qui a fait aussi que les gens se sont rendus compte.
Alors, on ne s'est jamais autant vu, finalement. On ne s'est jamais autant vu dans le miroir de l'écran.
Quand vous ajoutez donc les vidéoconférences à la mode des selfies, c'est sûr que c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est très extrêmement important et c'est devenu un vrai marqueur social. Donc aujourd'hui, d'avoir des dents parfaitement blanches et très bien alignées. Donc voilà, donc nous, on a surfé sur cette vague puisqu'on a créé, cette division de réalignement des dents il y a 10 ans. Et aujourd'hui, on a construit la plus grande usine en Europe, donc en tous les cas d'un fabricant européen de fabrication d'aligneurs dentaires. Voilà, donc c'est aussi une nouvelle industrie, c'est aussi quelque chose qu'on... C'est l'industrie 4.0, hein, donc on est aussi sur de la médecine personnalisée, on est aussi sur des solutions, donc on retraite la totalité des déchets donc créés par nos aligneurs. On retraite aussi, on récupère aussi les aligneurs dentaires des patients. Voilà, donc c'est aussi une industrie très propre.
Ça se recycle là.
Oui, ça se recycle. Donc on a été les premiers à lancer, puisque notre concurrent principal est américain et donc il est très loin aujourd'hui de ces problématiques-là. Et donc nous, en tant que gros fabricant européen, on a aussi rajouté, cette pierre qui est importante et qui est aussi éduque, les patients qui portent un dispositif en plastique. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, porter un dispositif en plastique, c'est pas forcément quelque chose d'extraordinairement moderne. Donc voilà, mais donc on retraite tous ces plastiques et c'est plutôt intéressant. Voilà. Donc voilà, donc il y a beaucoup d'atouts dans notre industrie française de la santé.
On en est persuadé.
C'est aussi une façon d'être un peu souverain aussi sur. On en a beaucoup parlé aussi pendant la crise Covid. Donc voilà, donc dès que je peux, j'essaie de promouvoir mon entreprise, mes salariés, donc sur la qualité, l'excellence de nos produits et de nos collaborateurs.
L'Invisoveil, on s'était déjà vu sur ce plateau colloque éthique, on avait parlé effectivement d'éducation. Rappelle d'un mot ce que fait Globe Educate.
Alors Globe Educate, c'est un groupe international d'écoles privées. Nous avons 62 écoles dans le monde pour les enfants de 3 ans à 18 ans. Et la particularité de toutes nos écoles, qui interviennent dans 4 continents et 12 pays, c'est que ce sont des écoles bilingues. Ou international. Donc, les enfants apprennent l'anglais dès l'âge de 3 ans.
Ouais, et ils sont parfaitement bilingues, hein, c'est ça, quand on est plongé, immergé avant 8 ans, ce que vous nous aviez dit.
Tout à fait.
On parle sans accent. Voilà. C'est magnifique. Ouais. Néanmoins, vous êtes confronté justement à cette jeunesse hein, de 3 à 18 ans. Est-ce qu'il y a de nouveaux problématiques ? Alors, on en parle parce que c'est vrai que, outre les écrans, on voit quand même que depuis cette parenthèse Covid, les ados notamment, et cette cohorte hein, qui a été touchée, qui a été enfermée pendant près d'un an, ou privée d'école, a peut-être plus de troubles ou plus de pathologies que les autres.
Tout à fait. Alors, c'est extrêmement important la santé pour nous dans les écoles parce que ce que je voudrais dire, c'est qu'un enfant qui se sent bien, il apprend bien. À l'inverse, un enfant qui se sent pas bien, il apprend pas bien. Et effectivement, juste après la Covid, il y a eu une recommandation en 2021 de l'UNICEF de mettre l'accent sur la santé mentale parce qu'il y a vraiment eu un avant et un après Covid. Mmh. Alors, pourquoi ? Parce que les enfants se sont retrouvés isolés, même si en France, on a eu des périodes de confinement assez courtes, mais quand même. Et il y a beaucoup de dépendances qui se sont créées pendant cette période. La dépendance aux écrans, aux jeux vidéo, aux substances, parfois même à la pornographie. Et il y a eu beaucoup de troubles de l'attention qui se sont développés. Et notamment, la Covid a créé des hyperactifs. Voilà ce qu'on a rencontré. Et puis, le fait qu'il y ait aussi eu une interruption dans la vie sociale et le fait de reprendre vie sociale... On voit, et avec le développement malheureusement des réseaux sociaux, qu'il y a un très fort développement du harcèlement scolaire. Et personne n'y échappe, aucune école, et pas les écoles privées non plus. Et on va dire qu'aujourd'hui, il y a à peu près entre 5 et 10% des élèves qui peuvent être harcelés au cours de leur vie scolaire. Et en général, ça se produit au collège. Voilà. Le collège, c'est vraiment le cycle de tous les dangers, avec un pic en 5e et un pic en 3e.
D'accord, et donc là, attention, danger pour les parents qui nous écoutent.
Et là, on a vraiment un rôle de prévention extrêmement important et de détection et ensuite de résolution de ces sujets.
D'autant, Lynn Lissovel, que le harcèlement, il ne s'arrête pas aux frontières de l'école. Avant, je ne vais pas dire que c'était le bon vieux temps, mais si on se faisait tabasser à la récré, ça s'arrêtait quand on rentrait chez soi.
Voilà.
Et là, ça continue, c'est un petit voilà. peu plus vicieux, donc, puisque ça continue sur les réseaux.
Exactement.
Donc c'est 24 heures sur 24.
Aujourd'hui, la bagarre à la récré, ça n'existe plus. Alors j'allais dire, tant mieux, mais d'un autre côté, avant, ça était visible. Maintenant, c'est extrêmement insidieux, c'est-à-dire que c'est du cyberharcèlement. Et en fait, il faut que les parents surveillent ce qui se passe sur WhatsApp, mais aussi, par exemple, sur les jeux en vidéo Discord, sur lesquels il y a un chat, oui. parce que c'est souvent là qu'il y a des sujets d'exclusion, d'humiliation, etc. Et donc, nous, on met en place des dispositifs pour cela, avec un responsable en matière de protection, vraiment, c'est son poste à plein temps, avec un psychologue au sein de l'école, et on fait tous les ans, par exemple en novembre, une semaine de prévention pour les professeurs et pour les élèves, pour leur apprendre à reconnaître ce que c'est que le harcèlement, pour apprendre à informer quand ils sont témoins de harcèlement d'un élève.
Et puis se rendre compte aussi qu'on peut être harceleur sans le savoir. Voilà, avec,
exactement. Les harceleurs n'ont souvent pas conscience de ce qu'ils font. Et donc, on multiplie la sensibilisation et la possibilité, finalement, de s'adresser à un adulte, soit directement en allant parler au responsable en matière de protection, soit en prenant un rendez-vous sur une sorte de Doctolib avec le psychologue, soit parfois via un QR code pour les plus introvertis. Il faut multiplier les canaux pour qu'on puisse se saisir du problème et mener des enquêtes et prendre les mesures adéquates.
Je rebondis, il faut être un peu geek. Hein. Vous nous parlez donc de Discord. Hein. Je ne sais pas si tous les parents sont familiers, mais effectivement, les chats dans c'est des rooms, en fait, des salles dans les jeux vidéo, on peut y accéder. Oui. Et puis également, vous parlez de Telegram.
L'application Telegram, voilà. Oui, qui est très utilisée par les jeunes.
Et puis sans oublier, c'est vrai qu'il y a WhatsApp, mais il y a Instagram. Hein. C'est pas qu'une appli de photo.
Il y a aussi
des discussions, même si elles sont un petit peu plus bridées. Bref, il faut. Il faut aussi peut-être un manuel pour les parents, pour qu'ils suivent. C'est pas évident, mais en tout cas, il faut s'en occuper.
On fait de la formation avec les parents.
D'accord.
Aussi.
Vous êtes aussi également très ferme, je crois, pour les cas de cyberharceleurs ou d'harceleurs en général.
On est très ferme. Il faut que Alors, on fait toujours des enquêtes. Dans les enquêtes, effectivement, on interroge la victime, le harceleur, les familles. C'est important que les familles soient impliquées parce que parfois, elles sont dans le déni, surtout quand c'est les familles du harceleur, les professeurs, etc., etc. Donc, on fait une enquête très, très. Voilà. Très importante. Et ensuite, on prend des sanctions qui doivent être exemplaires. Ouais. Donc, les sanctions, c'est en général l'exclusion, qui peut aller de 2 jours à 1 semaine. Mais pour un enfant, être exclu du groupe de l'école, c'est suffisamment marquant pour qu'en général, il prenne conscience et qu'il ne recommence pas.
D'accord. Donc, ça produit ses effets. Très bien. En tout cas, non, c'est intéressant de s'intéresser aussi aux plus jeunes, parce que je pense qu'il y a un vrai impact, comme vous l'avez très bien décrit. Marc Soubiran, Institut supérieur de rééducation psychomotrice, expliquez-nous en quelques mots ce que vous faites et vous aussi votre vision sur notre thématique du jour.
Alors, donc, nous, on forme des psychomotriciens qui sont des professionnels de santé du champ de la rééducation, mais qui interviennent aussi, alors c'est pas le plus gros de ce qu'ils font, mais en entreprise, sur des questions de santé au travail, sur des questions de prévention des risques psychosociaux, gestion stress, anxiété, prévention du burn-out. Qui peuvent aussi intervenir sur la prévention des risques de troubles musculo-squelettiques. Alors, j'ai un peu deux casquettes. À la fois, je rebondis sur ce que vous dites. Alors, moi, ils ont 18 ans quand ils arrivent chez moi, donc on prend le relais. C'est vrai que, bon, par rapport à la question de la Covid et des confinements, il y a un mal-être aujourd'hui qu'on voit chez les étudiants. On n'a jamais autant entendu parler d'étudiants en situation de mal-être. Et cette question, en fait, parce qu'on est implanté dans plusieurs pays dans le monde également, on la retrouve partout. Et cette question de la santé mentale chez les jeunes, dépression des jeunes et des gens de manière générale, même des adultes et donc y compris dans le monde du travail, on retrouve cette thématique partout dans le monde.
Mais plus qu'avant.
Plus qu'avant.
D'accord.
Alors, c'est toujours pareil. Est-ce que ça a été révélateur d'un certain nombre de choses qui existaient déjà ou... Alors, à mon avis, c'est les deux. On a révélé une situation qu'on avait peut-être un peu cachée ou dont personne n'osait parler. Et elle a été vraisemblablement, cette situation, amplifiée par les confinements. Et donc ça, c'est une vraie thématique, enfin une vraie problématique. Et on le voit aussi dans le monde du travail, enfin chez nos employés, un changement, je pense, de la relation au travail, à la fois parce qu'on peut prendre sa distance avec le télétravail, qui peut être un atout dans tout un tas de domaines, mais on revient à la question de la confiance, comment est-ce qu'on est sûr qu'il n'y a pas d'abus, etc. Bon. Mais en tout cas, ça, les gens prennent de la distance par rapport à leur travail.
Le rapport au travail a changé.
Je pense que le rapport au travail a changé et que le travail n'est plus complètement central dans la vie des gens, ou en tout cas maintenant ils peuvent l'exprimer. Là aussi, je pense que c'est jamais un phénomène qui change tout. C'est des choses qui sont dans la durée. Et puis il y a des événements révélateurs, il y a des révélateurs / amplificateurs aussi. Mais
ça veut dire, pratiquement pour comprendre sur le terrain, ça veut dire qu'on vous le dit ouvertement ou en entretien d'embauche, c'est plus ma priorité, on négocie son temps de travail.
Plus que le rapport travail, c'est la valeur travail.
Oui.
Je crois tout simplement. Et c'est quelque chose qui a... Je pense que la Covid, c'est un catalyseur voilà, qui a révélé ce qui était sous-jacent depuis quelque temps. Et je crois que ce qui est un peu nouveau maintenant aussi entre les parents et les enfants, c'est si les parents aujourd'hui ont cette illumination donc qui s'est comme ça révélée à eux pendant le confinement, en se disant mais dans la vie, il n'y a pas que le travail et que vous avez vos gamins qui sont avec vous aussi... Mais voilà, je crois que tout ça, ça crée un trouble qui est extrêmement important, et c'est le trouble que l'on vit un peu aujourd'hui. Sur le télétravail aussi. Alors nous, curieusement, on a quand même beaucoup de gens qui reviennent au travail aujourd'hui parce que c'est aussi une façon de... C'est une rencontre sociale. Enfin, il y a aussi cette problématique-là. Mmh. Et puis après, moi qui prône aujourd'hui l'industrie française, il y a quand même beaucoup de jobs dans mon entreprise qui nécessitent une présence... et qui plus est une présence en 3-8, donc après ça crée aussi cette espèce d'inéquité dans l'entreprise entre des gens qui se sentent floués par le fait que ils sont opérateurs par rapport à une comptable qui peut avoir dans son contrat de travail 2 jours de télétravail quasi imposé si vous voulez que être embauché si vous voulez que vous me recrutez, vous êtes obligé d'avoir ça, donc voilà, donc ça aussi, ça crée des tensions qu'il faut aussi gérer dans l'entreprise. Voilà, donc je pense que les ressources humaines aujourd'hui des entreprises n'ont jamais été aussi importantes.
Et sur peut-être ce dont parlait Marc Soubiran, peut-être le tabou aussi de la santé, on en parlait peut-être moins, ou quand on avait un petit coup de barre. Aujourd'hui, le fait qu'effectivement il y ait cette crise sanitaire, est-ce que la parole se libère?
Oui, certainement. Oui, c'est clair. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un facteur, on en parlait tout à l'heure, c'est problématique aussi de responsabilisation. Peut-être que si les gens payaient aussi, il y aurait aussi ça. Donc chez nous, quand même, la santé est quasi gratuite. Elle l'est aussi maintenant pour beaucoup de soins dentaires, donc ce qui est aussi très récent. Et on le voit, ça n'a pas nécessairement rendu les Français plus responsables sur le fait de bien se brosser les dents, de ne pas fumer, de ne pas donc dire aussi aux enfants donc de ne pas manger énormément de sucre, de boire des boissons sucrées, etc. Donc tout ça, on se fait réparer des dents, mais c'est déplacer le problème pour, dans quelques années, plus avoir de dents du tout. Et, voilà, et là, alors pour l'industrie pour l'industrie que je représente, ils auront des implants dentaires, donc c'est bien aussi pour nous.
Réaligner les dents avec votre dispositif, c'est remboursé par la Sécu ?
Non, pas du tout.
Pas du tout, non. Ça c'est cosmétique.
Mais par contre, jusqu'à 16 ans, oui.
D'accord.
Mais après, oui, après c'est cosmétique. Maintenant, il y a aussi des assurances privées qui permettent d'avoir une prise en charge qui est quand même importante. Non, l'alignement, ça reste quand même adulte, ça reste quand même quelque chose qu'il faut payer.
Très bien. Christelle Charvet, je reviens à vous, effectivement, sur la possibilité de conserver une bonne santé, ou du moins de la préserver, cette santé, avec quelque chose que vous connaissez très bien, c'est l'homéopathie. Alors, c'est très décrié en France. Enfin, c'est vrai que, voilà, on va pousser des hauts cris. Certains disent, voilà, ça ne peut pas marcher. Il y a trop les principes actifs sont trop dilués. Et pourtant, ça fonctionne sur beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui ne jurent que par l'homéopathie.
En fait, moi, je suis chirurgienne de formation, gynécologue, et je connaissais pas du tout l'homéopathie. Mes parents me donnaient pas d'homéopathie quand j'étais petite. Et en fait, c'est mes patientes qui m'ont conduit à m'intéresser à cette thérapeutique parce que elles me disaient, écoutez, nous, franchement, ça marche. Et moi, je sortais de la faculté avec 13 ans d'études et l'incapacité, par exemple, de régler le problème d'un syndrome prémenstruel. J'ai mal au sein avant mes règles. Bah moi, à part donner des hormones, prescrire des hormones, je savais rien faire. Et les patients me disaient, bah moi je prends ça en homéo et j'ai pas mal après. Et voilà, moi je suis quelqu'un qui écoute les gens, donc je me suis dit, bah je vais voir ce que c'est. Et puis je me suis formée en homéopathie et j'en suis plus jamais sortie. Donc c'était dans les années 90. Et ça a coïncidé aussi avec ma rencontre avec la notion, le concept de médecine intégrative, de médecine globale. Dont on est en train tous de parler sans le savoir.
Alors
finalement,
on explique peut-être voilà. Pour ceux qui
donc c'est un concept qui vient donc des États-Unis 1990 environ et qui est un concept qui associe la médecine conventionnelle et les pratiques complémentaires, la prévention, le soin pendant la maladie, la prévention tertiaire, avec un soignant qui coordonne tout ça et avec le soignant qui prend soin de lui. Alors je ne sais pas si vous mesurez les impacts de tous les mots que j'ai dit. Oui. Donc une santé globale pour la personne et pour le soignant, et on dit l'expression « happy doctor, happy patient hein, », si le docteur va bien, le patient il va déjà bien mieux, et il y a cette notion de prévention. Et moi je suis désolée, je vais critiquer un peu ce que j'ai appris en médecine, mais la faculté ne nous forme pas à la prévention, en tout cas à mon époque. Voilà. Elle nous formait à la guérison, on attendait que les gens soient malades, puis on leur donnait des médicaments pour essayer de les guérir. Mmh. Alors pour revenir sur l'homéopathie, je vous avais parlé quand on a préparé cet entretien d'une étude épidémiologique, pharmaco-épidémiologique qui s'appelle EPI3, et qui entre 2007 et 2010 a regardé trois cohortes de patients, donc des patients qui avaient des infections des voies aériennes supérieures, des patients qui avaient des douleurs musculo-squelettiques, et puis des patients qui avaient des troubles anxieux ou des troubles du sommeil. Et on suivait ces patients, donc ils étaient suivis soit par des homéopathes, soit par des médecins vraiment non homéopathes, soit par ce qu'on appelle des médecins mixtes. Et ce qu'il est apparu dans cette cohorte, donc, qui a donné lieu à 11 publications, c'est que les personnes qui avaient été prises en charge par l'homéopathie avaient une amélioration de leurs symptômes absolument comparable aux autres groupes. Donc il n'y a pas de baisse éthiquement. On peut se dire que quand on prescrit de l'homéopathie dans ces situations-là...
Ils étaient soignés, pardon, juste avec l'homéopathie, c'est ça ?
Juste avec l'homéopathie, voilà. Donc dans ces situations-là, il n'y a pas de perte de chance pour le patient. Donc les résultats étaient identiques. Mais par contre, ce qui apparaissait très nettement, c'était que dans les troubles du sommeil, on avait moins 71% de prescriptions de psychotropes. Alors quand vous disiez est-ce qu'ils donnaient autre chose, vous voyez, c'est pas 100%. Donc ça veut dire qu'il y avait quand même quelques médicaments conventionnels qui étaient prescrits par les homéopathes, mais moins 71% de consommation de psychotropes, moins 75%, moins 71% dans les troubles anxieux, moins 46% d'anti-inflammatoires prescrits dans les douleurs musculo-squelettiques et presque moins 50% dans les d'antibiotiques dans les voies infections des voies aériennes supérieures. Cette étude, c'est pas une étude randomisée versus placebo, c'est encore mieux puisque c'est la vraie vie. C'est la vraie vie, voilà. Et déjà, ça, moi, ça m'a quand même perturbée. Et puis après, quand on dit qu'il n'y a pas de recherche en homéopathie, il y a un institut de recherche en homéopathie qui s'appelle le HRI, qui est un institut international. Au Brésil, il y a des universitaires qui font de la recherche sur les dilutions infinitésimales. Donc, ce que je disais tout à l'heure à mes collègues, il faut arrêter de penser qu'on est sur une Terre rectangulaire. La Terre est sans doute ronde, et il faut accepter d'aller voir les limites et de se dire très humblement, et la médecine n'est vraiment pas une science exacte, qu'il y a tout un univers qu'on ne connaît pas. Oui. Et l'infiniment petit, les dilutions homéopathiques, ça en fait partie.
Mais ça veut dire, et c'est intéressant, parce que vous venez de la médecine, on va dire, traditionnelle, le cursus, de longues années d'études, et
puis
voilà, on n'a pas forcément peut-être, il y a peut-être une résistance aussi à se dire, bon voilà, on n'a pas fait toutes ces études pour voir les petites boulettes qui vont nous remplacer. Alors peut-être pas exactement, mais qu'est-ce qu'ils vous disent vos collègues aujourd'hui? Ils arrivent quand même à changer un petit peu leur état d'esprit, à ouvrir un peu leur...
C'est très amusant parce que ils ont la casquette médecin de me dire non, c'est pas possible, ça marche pas. Et puis quand ils ont un gamin malade ou leur femme enceinte, ils m'appellent pour avoir de l'homéopathie. Donc je pense qu'ils sont, quand même perturbés parce qu'ils me connaissent et ils savent que moi, je suis pas quelqu'un de complètement loufoque.
Oui.
Et que l'homéopathie m'a apporté dans le soin vraiment un outil qui est pour moi précieux, mais avec une place particulière. Moi, je vois beaucoup de gens qui ont des cancers parce que j'ai une association qui accompagne des personnes atteintes de cancer. Voilà, on soigne pas un cancer avec de l'homéopathie. Donc, si on met les choses à leur place et si on met l'homéopathie en un dans les syndromes dépressifs, le post-Covid, etc., eh bien, on s'aperçoit que on va réduire la période des symptômes et on va peut-être permettre à certaines personnes de ne pas avoir recours à des thérapeutiques Efficace, j'entends bien, mais beaucoup plus dangereuse.
Oui. Alors, il y a deux choses que vous avez citées, les troubles anxieux et puis aussi ces fameux douleurs musculo-squelettiques, hein, effectivement, alors qu'ils peuvent être traités, vous donnerez peut-être les noms des composés, ça c'est intéressant, mais c'est vrai qu'on a l'impression que voilà, dans toutes les entreprises, on a des gens voilà, qui sont peut-être anxieux, qui sont, et puis surtout les postures, on est sur l'ordinateur, on n'est pas très bien, donc on voit ça aussi, ça on peut le traiter, on peut le prévenir en tout
oui,
cas.
Oui, ce qui est en tout cas intéressant dans l'homéopathie, c'est qu'on a le suite 2. Par exemple, moi, en homéopathie, je ne vais pas prendre en charge pareil une personne qui a des douleurs musculo-squelettiques parce qu'elle a eu un stress, parce qu'elle elle se plaît pas dans son entreprise, et une personne qui va juste avoir un problème de posture. C'est-à-dire que moi, en tant qu'homéopathe, je vais m'occuper de la globalité de la personne. Pourquoi elle a ces douleurs? Je ne vais pas traiter la douleur, je vais traiter la douleur chez cette personne.
La douleur, c'est le symptôme.
La douleur est juste le symptôme, et la douleur, c'est un ressenti. Jamais oublier ça. C'est-à-dire qu'on a des gens avec des pathologies qui devraient être douloureuses et qui, pour autant, n'ont pas un ressenti douloureux. Oui. Mais parce qu'elles ont une capacité de gérer cette douleur. Voilà.
D'où la question maintenant de l'échelle, hein, de 1 à 10, votre douleur, les femmes c'est 2, les hommes c'est 8, bien évidemment. Non, ça a été remis en question en fait.
Ça reste vrai.
Ça reste vrai, bon, ok. Marc Souillant, je vous ai vu là une fois de plus acquiescer justement quand on parlait de cette approche peut-être globale aussi, hein, du patient, de la douleur, voilà, de prendre en compte différentes dimensions.
Absolument, alors nous, enfin, les psychomotriciens, en psychomotricité, psychomotricité, corps-esprit, c'est cette prise en charge globale. Donc, tout ce que vous dites, je ne peux être que d'accord avec vous. C'est vrai que les gens ont beaucoup... on regarde beaucoup ce qui se passe physiquement. Et donc, quand on dit trouble musculo-squelettique, on dit, bah oui, c'est un problème de posture. Et bah, sauf qu'il peut y avoir des problèmes. Enfin, si on se sent mal, si on a un problème d'hypotonie, etc., et bah, on va se tenir mal. Et même si on peut avoir la meilleure chaise...
C'est quoi l'hypotonie, pardon ?
L'hypotonie, c'est un trouble du tonus qui fait qu'en fait, on est trop relâché. Okay. Et en fait, bah, ça peut engendrer une mauvaise posture, mais il peut y avoir une source psychologique en fait à une mauvaise posture. C'est pas juste parce qu'on n'a pas le bon fauteuil, la table à la bonne hauteur. Donc c'est la combinaison des deux, ce que vous disiez. Donc c'est là aussi, il faut regarder la globalité des choses. Et donc en effet dans un environnement de travail, juste se dire on va acheter le meilleur fauteuil, le meilleur truc, etc., c'est peut-être plus simple parce que c'est des choses tangibles qu'on peut voir, qu'on peut toucher, mais oublier toute la dimension psychologique du travail, on en revient aussi à cette question de peut-être valeur mais aussi sens du travail. Je pense que les gens aujourd'hui sont beaucoup en recherche de sens, par exemple, enfin, on a parlé du télétravail, c'est vrai que la crise sanitaire, ça a remis un certain. On s'est posé tous beaucoup de questions. On s'est dit, c'est quand même dingue que ça nous arrive. Mais il y a aussi les guerres, il y a aussi l'éco-anxiété. Et donc, tous les jeunes, aujourd'hui, ils se disent quand même, les jeunes, y compris jeunes professionnels, enfin, pas tous, beaucoup se disent, mais où est-ce qu'on va? Enfin, où est le sens dans ce que je fais? Je pense, en tout cas, qu'il y a peut-être un travail à faire pour aider les gens à retrouver du sens dans ce qu'ils font, et notamment dans leur travail. Et il y a tout un tas de techniques psychocorporelles qu'on peut utiliser dans le monde du travail qui permettent de recréer, enfin redonner ce lien, redonner ce sens. Mais c'est un travail, encore une fois, qui n'est pas fait qu'au niveau des employés. C'est aussi à faire avec les employeurs. Parce que si les employeurs n'ont pas compris et ne sont pas convaincus, ça ne marchera pas. Donc, il faut aussi cette approche globale dans toute l'équipe, à tous les niveaux hiérarchiques, à mon avis, dans une entreprise.
Ça rejoint effectivement la QVT, cette fameuse qualité de vie au travail, après avec les classements, effectivement, Great Place to Work, c'est-à-dire il y a des élections. Moi, j'ai une question. C'est vrai que on l'a évoqué aussi en introduction avec Sophie de Menton et le docteur Patrick Erard. Est-ce que c'est de l'ordre finalement de la sphère privée, de se sentir bien, d'aller au travail finalement avec un sens, plus qu'une valeur peut-être, ou de se redonner. Ou est-ce que justement c'est à l'entreprise, vous le dites, alors sensibilisation oui, mais est-ce que c'est à l'entreprise aussi de faire l'effort de mettre tout ça en place, Philippe Véran, qu'est-ce que vous en pensez ?
Forcément, c'est des deux côtés. Hein. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, nous les entreprises, d'abord il y a un rapport au travail donc, qui a vraiment changé avec le fait qu'il y ait moins de chômage aujourd'hui dans les économies occidentales. Donc forcément, aujourd'hui, quand vous aviez une offre d'emploi et 300 demandeurs d'emploi. Donc aujourd'hui, c'est pas l'inverse, mais enfin, en tous les cas, dans certains secteurs, oui. Donc il faut
secteur
que les entreprises,
sous tension.
Ouais, donc il faut que les entreprises aujourd'hui et c'est très bien, ben, jouent donc toutes ces cartes. Et donc vous parliez tout à l'heure de sens au travail et c'est très vrai. Nous on a la chance. Donc on a notre mission en tant qu'entreprise à mission, c'est créateur d'un monde de sourire. Donc c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel on joue beaucoup et dans notre entreprise, donc toutes les personnes du poste, même s'il n'y a pas d'échelle particulière, mais enfin du plus bas jusqu'au plus haut, donc tout le monde est très concerné par le fait qu'on soigne des patients et qu'on redonne du sourire aux gens. Donc c'est vrai que c'est important.
Dans la charte, on est obligé de sourire 10 fois par jour quand on travaille chez vous, c'est ça ?
Oui, d'avoir des dents magnifiques. Mais c'est vrai que c'est bien, je pense, aujourd'hui, de changer ce rapport au travail entre l'employeur et l'employé et que les entreprises, de toute façon, si elles ont envie d'avoir des collaborateurs aussi de bon niveau, elles doivent à minima être aussi au niveau de leurs collaborateurs et donc faire tout ce qu'il faut pour qu'ils se sentent bien au travail. Mais après, c'est des choses aussi qu'on peut... Moi qui suis maintenant un vieil employeur, je dirais que j'ai toujours eu... Enfin, c'est pas j'ai pas changé dans mon comportement à ce que... Enfin, voilà, chez nous, les gens, il faut qu'ils se sentent bien. Et on dit toujours que l'entreprise, c'est un peu une seconde famille, et c'est la réalité. Donc, tout à l'heure, dans cet équilibre que vous citiez, c'est sûr que si... En fait, on n'a pas de changement ou qu'au contraire, le changement au travail est encore mieux que ce qu'on peut avoir parfois dans le privé. Mais c'est aussi une source dans l'entreprise de pouvoir se régénérer.
Oui, la présidente d'Éthique, hein, Sophie de Menton, disait tout à l'heure, salarié heureux, entreprise prospère, ou salarié en bonne santé.
Bien sûr.
C'est vrai.
Mais c'est évident.
Oui.
Bien sûr.
Et
c'est comme pour les médecins, facile, happy doctors. Donc voilà, c'est pour vous aussi, donc vous l'avez dit. Donc ça marche pour tout.
Ouais,
on n'est pas dans un monde de bisounours. Donc il faut aussi voir la réalité des choses.
Est-ce que ça vous est arrivé, par exemple, de faire face à justement des collaborateurs qui avaient peut-être plus qu'un coup de barre, vraiment des troubles à ce moment-là? On adapte, on essaie de se dire, on peut peut-être faire plus... je ne sais pas si le télétravail dans ce cas-là est bien de couper encore plus le lien, parce qu'il y a ce rapport aussi au travail qui a changé. C'est vrai, avec ce télétravail, le fait de ne plus faire corps, est-ce que ça a modifié, vous vous sentez, peut-être pour certaines personnes plus fragiles?
Oui, mais pas plus, je dirais, qu'avant. Quand vous prenez soin de votre personnel, il n'y a pas de avant-après. C'est juste que le après, aujourd'hui, clairement, donc c'est vrai qu'on a plus à gérer ces problématiques-là. Donc il faut les gérer. Et je le répète, les directions des ressources humaines aujourd'hui dans l'entreprise, pour moi, c'est avant, on parlait souvent de la direction financière, mais c'est vrai que là aussi, les mindsets ont changé et la direction des ressources humaines, pour moi, c'est quelque chose de fondamental dans une entreprise.
Lynn, vous voulez intervenir? Je vois que vous opinez du chef, en tout cas, vous êtes d'accord avec ce que dit Vibert?
Je suis 100% d'accord. Je pense que c'est de plus en plus, l'entreprise a vraiment un rôle dans le bien-être de ses salariés. D'ailleurs, c'est une attente des collaborateurs de l'entreprise qui, maintenant, c'est assez pour eux, entre la vie privée et la vie professionnelle, ils n'hésitent pas à venir vous voir, à venir voir leur manager de proximité, à exposer les sujets qu'ils ont, et ils s'attendent à ce que l'entreprise les aide. Moi, je suis surprise de voir dans nos écoles, là où on a des psychologues, qu'on a une grosse partie de notre personnel qui n'hésite pas à utiliser les services du psychologue. Et c'est très, très bien. Et je pense, comme vous l'avez dit, que le vrai bras droit d'une direction générale dans l'entreprise, aujourd'hui, c'est les ressources humaines. Et particulièrement quand vous êtes dans des métiers comme le nôtre, comme l'éducation, on ne se pose pas la question du sens au travail. C'est comme dans la santé, je pense qu'on se lève le matin, on sait qu'on va avoir un impact, mais vous avez besoin que vos professeurs, ils sont en pleine forme et pour pouvoir gérer une classe avec 20 élèves dedans, c'est extrêmement important. Donc on ne peut pas avoir des œillères et considérer qu'effectivement c'est dans la sphère privée. Ça, je pense qu'aujourd'hui c'est absolument plus possible, et ça doit vraiment être central dans toute organisation du travail.
Ouais, surtout que c'est vrai que pour les professeurs également, ça a été compliqué là, cette période. Plus voir ses élèves ou travailler en Zoom, c'était quand même pas tout à fait la même chose. On a dit justement, Christelle Charvet, qu'il y avait même de l'homéopathie pour soigner nos troubles, alors musculo-squelettiques ou troubles anxieux. Est-ce qu'on peut donner le nom des molécules? Bon, sans faire de pub.
Après, l'homéopathie est un générique, hein, puisque vous ne donnez pas le nom du laboratoire quand vous mettez Arnica. Donc, voilà. Mm-hmm. Alors, clairement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on a des petites astuces. Par exemple, les troubles anxieux, troubles modérés du sommeil, passiflora composée, c'est un mélange de plusieurs souches, de plusieurs médicaments homéopathiques. ça convient à tout le monde. Et surtout, voilà, moi, ce que j'aime, sécurité d'emploi, pas d'interaction médicamenteuse, vous les donnez aux femmes enceintes, aux personnes atteintes de cancer.
On peut commencer, on peut arrêter, il n'y a pas de...
Les personnes âgées, vous n'allez pas leur induire des troubles de la marche. Voilà, c'est ce que vous prenez.
Ça a dû marcher.
Ça vous a réussi, donc voilà, c'est un très bon exemple. Non, mais il ne faut pas oublier que l'homéopathie, ça a 2 siècles. Hein, donc voilà, on a des anciens médicaments. Et après, j'allais dire, par exemple, pour les troubles musculo-squelettiques, là, pour le coup, ça dépend. Parce que ça dépend de la cause, ça dépend du patient, ça dépend... Donc, on va voir notre arnica tout bête quand vous êtes resté un peu longtemps sur une chaise et que vous avez un peu mal partout. Mais voilà, on peut avoir aussi des médicaments de type Ignatia si c'est une tension nerveuse ou d'autres. Voilà. Donc, c'est compliqué, l'homéopathie, dans le sens où nous, en tant que médecins, on a besoin d'un interrogatoire, d'une écoute vraiment complète du patient. Après, on a des solutions simples que les pharmaciens, d'ailleurs, connaissent bien et que les patients connaissent bien aussi, puisque à défaut d'avoir un nombre de médecins homéopathes suffisant en France, on a maintenant des patients qui s'auto-médiquent en homéopathie, qui ont l'habitude de l'homéopathie. Et voilà, il y a eu le déremboursement, et pour autant, l'homéopathie n'est pas morte en France. Hein. On a de plus en plus de gens qui continuent à en prendre, même non remboursés. Donc pour moi, ça, c'est aussi une légitimité de l'homéopathie, c'est de se dire que les gens, ils mettent la main au porte-monnaie pour avoir une solution thérapeutique qui les améliore et qui respecte leur physiologie. Et ça va aussi dans la tendance actuelle, le respect de la physiologie, respect du corps humain, ne pas aller contre l'organisme. Donc
et vous avez parlé aussi de la prévention, très importante.
Oui, parce que...
aussi une sensibilisation, peut-être, se dire, on n'est pas juste en réaction, mais on se dit, finalement, on n'a que... Voilà. Un corps, il faut en prendre soin.
Nous, en homéopathie, si vous voulez, on reconnaît des terrains. C'est-à-dire que vous, moi, toutes les personnes de cette table, nous ne sommes pas pareils physiquement et nous ne sommes pas pareils moralement. Ça définit des terrains. Et on sait très bien en homéopathie que certains terrains risquent de faire des problèmes de santé plus importants. Donc quand vous repérez les terrains, même sans prescrire le médicament homéopathique, vous pouvez dire à cette personne, attention, parce que vous, votre constitution, votre terrain fait que vous êtes beaucoup plus à risque de ça. Donc franchement, là, ce comportement-là, il va vraiment falloir l'éviter, parce que vous risquez d'en faire la complication.
D'accord.
Donc ce côté préventif est
intéressant. Dans quoi ? Dans tout ce qui est tabac, alcool
Oui, syndrome métabolique, il y a des gens, ils peuvent manger n'importe quoi, boire n'importe quoi, et ils vont jamais ni grossir, ni avoir de problème de cholestérol, ni rien. Et puis certaines personnes, dès qu'ils font un abus, ou dès que... ils vont dans un comportement de santé inadéquat, ils vont faire une pathologie. Et quand je reviens sur la prévention, ça peut être aussi prendre en charge quelque chose au tout début. Vous voyez, c'est pas forcément ne pas avoir de symptômes. C'est-à-dire que quand vous avez un petit bobo et que vous prenez un traitement homéopathique, l'idée, c'est que votre petit bobo, il se renouvelle pas. Je pense par exemple aux infections urinaires à répétition, aux mycoses à répétition. Très clairement, quand vous traitez en homéopathie une première crise ou une deuxième crise, vous avez moins de récidives. Parce que l'organisme ne s'est pas habitué au, ce que j'appelle le bazooka, c'est-à-dire au traitement qui cache le symptôme, mais qui empêche l'organisme de réagir à ce symptôme, de s'y habituer, Donc l'homéopathie, elle fait tout, C'est vraiment une médecine globale.
Bon, voilà pour la minute homéopathie, un petit peu plus long, mais effectivement, si, après tout, si ça marche, pourquoi pas essayer pour certaines pathologies. On arrive bientôt au terme de cette émission, mais je rebondis sur ce que vous avez dit, effectivement, l'entreprise qui s'empare de ces sujets, et c'est demandé par les collaborateurs, est-ce qu'il n'y a pas une dérive aussi vers peut-être ce que certains appellent, c'était l'état nounou, maintenant l'entreprise nounou qui devrait tout faire pour son collaborateur, qui devrait agir ? Marc ?
Allez, je me lance. Oui, c'est toujours... Après, on parlait en effet des gens qui vont voir leur manager de proximité pour raconter leurs problèmes. Je pense là aussi que les gens... Alors, est-ce que c'est lié à leur rapport au travail qui a changé ? Mais en tout cas, je trouve que les gens parlent plus en effet de leurs problèmes qu'avant, ce qui n'est pas forcément mauvais, c'est juste un constat. Mais en revanche, je pense aussi, je trouve que certains mettent trop... leur problème sur l'entreprise. C'est-à-dire, au lieu de se dire, non, ça, c'est un problème de la sphère privée, c'est tellement facile de dire, c'est à cause de l'entreprise, c'est à cause de... Donc, ça, nous, on l'a vu dans certains cas. Et donc, parce que peut-être qu'en voulant essayer de trop écouter les gens, eux ont du mal à savoir où est la vraie limite. Et choisir un peu la facilité à se dire, on va dire que c'est à cause de l'entreprise, comme ça, on se cache un peu de ça.
Voilà, je suis stressé, c'est parce que c'est mon boulot qui est stressant, alors qu'il y a peut-être d'autres choses.
Donc au lieu d'aller à la vraie cause, et je rebondis sur ce que vous disiez en élargissant peut-être un petit peu, je pense que c'est quand même important, et ça, là aussi, on revient à l'éducation. Je pense que c'est important que les gens, ça peut sembler bête de dire ça comme ça, mais apprennent à se connaître. Apprennent à se connaître, savoir ce qu'ils aiment pas, ce qu'ils veulent pas, qui ils sont. Je pense qu'il y a pas mal de déficits là-dedans. Et pareil, on parlait de... on peut avoir des problèmes avec des employés ou comment est-ce qu'on gère. Et ben parfois, moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir des employés à qui j'ai dit « Mais en fait, peut-être que la meilleure des solutions pour toi, c'est de partir. » Pourquoi ? Parce que, enfin, on a fait un petit bout de chemin ensemble, c'était adapté pendant un moment, mais maintenant, l'entreprise ne peut plus t'offrir ce que tu veux en termes de carrière, d'ambition, de développement de compétences. Et il faut aussi savoir dire stop, c'est fini, et c'est pas grave, et on reste amis. Enfin, donc au lieu
c'est
de s'accrocher,
vrai, ça se voit notamment. Je pense à vivre dans les entreprises en croissance où c'est vrai qu'au début c'est une petite équipe, on fait tout le temps, et puis on a des responsabilités, puis l'entreprise grossit, voilà, et puis on est cantonné à une seule tâche, et il y a des gens, c'est vrai, qui ne réussissent pas, et qui sont un petit peu aigris, oui, qui en veulent à l'entreprise, alors que c'est juste l'évolution naturelle. Ouais, ça peut se voir. Vous avez vu ça, Philippe, peut-être?
Oui, bien sûr.
Vous le voyez?
Bien sûr. C'est quelque... oui, surtout sur évidemment les entreprises. Enfin, nous, quand on a créé l'entreprise, il y avait moi et une autre personne. Et donc aujourd'hui, on est 2000 dans le groupe. Donc,
l'autre personne est toujours
donc,
là.
Donc oui, non, malheureusement. Mais voilà, donc il faut à chaque étape de l'entreprise aussi savoir effectivement parler à ses salariés. Et puis peut-être aussi leur dire la vérité, que les routes peuvent se séparer. Et c'est la vie normale. Voilà, donc c'est aussi quelque chose qui change un peu en Europe. Parce qu'on avait l'habitude aussi d'avoir souvent pas 50 métiers. Il faut aussi s'habituer à ces jeunes générations qui ont décidé de faire plusieurs métiers dans leur vie, donc plusieurs entreprises. Et l'aspect fidélité qu'on pouvait avoir et qu'on pouvait gagner avant, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est plus difficile à gagner ou qui, tout simplement, n'est pas quelque chose sur lequel il faut parier. Donc ça aussi, dans les perspectives de recrutement que nous faisons et suivant la typologie des gens que l'on a recruté, ben on doit savoir que ben dans 3 ans, il faudra de toute façon passer à quelqu'un d'autre. Donc, d'où l'importance des ressources humaines. Donc, je dis aussi,
toujours, ouais, ont
aussi cette façon de pouvoir prévoir le poste suivant, parce qu'on sait très bien qu'il n'y aura pas, je dirais, une durée extraordinairement longue ensemble entre l'employeur et l'employé, parce que c'est la décision de l'employé.
Oui, pour faire suite à ce qu'on disait, pour résumer un petit peu, c'est vrai qu'on a eu ce petit bouquin que je montrais tout à l'heure, Travailler heureux, de notre premier invité, le docteur Patrick Erard, Philosophie du bonheur au travail. On l'a compris en creux, évidemment ça passe par la santé, on a parlé de valeur ou de sens plutôt au travail qui est demandé. Comment on fait, tiens, un petit tour de table rapide là pour continuer à travailler heureux les uns et les autres? Aline, vous voulez commencer? Vous avez dit, bon, métier passion, l'éducation, c'est sûr, ça, on sait pourquoi on se lève le matin.
Voilà, métier passion, dans un environnement qui vous plaît, et surtout avec des personnes qui ont les mêmes valeurs que vous. Pour moi, je pense que c'est extrêmement important. Avec l'expérience, je crois que le projet et les valeurs partagées, c'est ce qui fait qu'à un moment donné, vous pouvez passer des moments extraordinaires et puis des phases plus difficiles dans une entreprise. Ouais. Je crois que ça doit devenir le premier critère de choix.
Oui, moi, j'ai la chance de pouvoir me lever tous les jours et d'être, je dirais, globalement très heureux de ce que je vais faire dans la journée. Et ben, j'essaie que les gens qui travaillent avec moi ressentent la même chose. Donc voilà, après, la recette, je ne sais pas s'il y a vraiment des recettes pour ça. Mais en tous les cas, oui, travailler avec des gens qui souvent ont la même passion que vous et les mêmes valeurs. Voilà, après, quand une entreprise, plus l'entreprise est grande, plus c'est difficile d'être certain de pouvoir partager aussi toutes ces valeurs. Mais c'est voilà, moi c'est plutôt l'entrepreneuriat que je promeus, donc je m'adresse souvent à des jeunes entrepreneurs qui ont envie d'entreprendre, et donc je leur explique que c'est certainement le plus beau métier du monde, mais comme les médecins d'ailleurs, hein, mais donc il y en a beaucoup des plus beaux métiers du monde, mais qu'en fait le plus beau métier du monde c'est celui que l'on fait quand on l'aime. Donc,
ni plus, de toute façon demain on ne travaille plus puisque l'IA va nous remplacer, non, à peu près sur tous les métiers. On n'a pas parlé d'intelligence artificielle.
Ça aussi, c'est une crainte. Je pars tout à l'heure à Vivatech pour une conférence sur l'IA, mais moi, je pense que l'IA est un merveilleux outil si on l'utilise bien. Enfin, en tous les cas, c'est ce qu'on a essayé d'adapter dans les solutions que l'on propose à la fois à nos clients et aussi à notre personnel. Voilà, maintenant, l'IA dans la santé, il ne faut surtout pas que ça remplace... que ça remplace le médecin et la clinique. Donc, en tous les cas, nous, c'est comme ça qu'on a décidé chez Biotech Dental de régler entre guillemets la problématique de l'IA. Et moi, pour quelque chose que je me suis appliqué, donc voilà, je parle anglais, j'écris anglais, et je me suis rendu compte en utilisant les traducteurs de ChatGPT par exemple que qu'en fait je n'écrivais anglais que quand je devais écrire tout seul en anglais, il fallait que j'aille tout de suite voir mon correcteur, je butais sur tous les mots. Et ça, au bout d'un mois d'utilisation. Et donc, je me suis dit, et j'ai dit à mes équipes, pour les solutions qu'on propose à nos praticiens aujourd'hui, il faut forcément que l'IA arrive après. Donc, il faut qu'elle soit un complément du diagnostic, mais certainement pas un premier diagnostic, parce que autrement, on va perdre voilà, l'efficacité, la science du praticien qui a son patient en face. Et, ouais. Et il ne faut pas que le patient qui va être soigné soit généré aujourd'hui par nos algorithmes et que la personne qui fait l'intermédiaire, donc qui est le médecin ou le dentiste, donc soigne son patient sur nos algos tout seul. Donc voilà, on doit simplement venir en complément, mais en tous les cas, la responsabilité doit rester la clinique et le praticien.
Ouais, je crois que ça fera un excellent sujet de prochain colloque, parce qu'on pourrait recommencer la table ronde juste sur l'IA, notamment dans l'éducation. Donc du sens, on en a parlé, Marc Subiran aussi, voilà, pour continuer à travailler heureux et en bonne santé, comment on fait ?
Encore une fois, je vais redire ce que j'ai déjà dit. En fait, je pense qu'il faut se connaître soi-même, savoir ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas. Il faut être aussi, enfin moi je passe beaucoup de temps à être très transparent en entretien quand je recrute des gens pour leur dire exactement quel va être le poste, comment ça va se passer, comment, etc. Puis après ils aiment pas, enfin, mais c'est pas négociable. Enfin, c'est parce que c'est mon besoin, je connais le besoin de mon entreprise. Mais donc si l'employeur expose parfaitement bien toutes les règles, etc., en disant bon, il y a des choses qui peuvent changer, ça c'est la vie, et que la personne sait ce qu'elle veut, bon, déjà on peut imaginer que le recrutement se passera bien et que la personne sera heureuse au travail. Mais je pense qu'il y a aussi un deuxième aspect, c'est qu'il faut aussi développer sa force de résilience. Ça, on l'a vu beaucoup pendant le Covid, chez les étudiants, chez les employés, etc. Enfin, nous, on a développé tout un programme pour les étudiants qui s'appelait ISRP École Résiliente, pour les aider à développer leur force de résilience. Parce qu'il y a un moment, quand tout est dur, quand tout est difficile, il n'y a pas de recette miracle. Et en fait, il faut savoir gérer soi-même. Et ça aussi, je pense qu'on parlait de responsabilisation tout à l'heure. Je pense que dans tous les domaines, il faut aussi que les gens puissent se responsabiliser, mais qu'ils aient aussi les compétences et les ressources pour le faire. Voilà, savoir ce qu'on veut, mais aussi savoir encaisser les coups durs, parce que la vie, c'est pas simple, malgré ce qu'on veut nous faire croire.
C'est vrai. Vous voulez ajouter quelque chose, Christelle ?
Oui, alors je ne veux pas finir sur une mauvaise note, mais la santé est compliquée actuellement. Hein, le monde de la santé va mal, les soignants sont en extrême souffrance. Et je pense que sincèrement, la médecine intégrative, le concept de la médecine intégrative, est vraiment une solution pour tous nos jeunes soignants en difficulté, pour acquérir des outils pour eux, et qui transmettront à leur passion de gestion de stress et de tout ça. Ouais. Et puis, moi, à titre personnel, la création de mon association qui s'appelle Centre Ressources Lyon, donc je l'ai placée, qui accompagne des gens atteints de cancer, c'est vraiment, ça donne aussi du sens, parce qu'on a des personnes vulnérables, et c'est une micro-entreprise, mais de bénévoles, mais c'est intéressant aussi.
Ouais, on va en parler justement du cancer dans quelques instants, ce sera l'objet de la deuxième table ronde, bien-être et nouvelles formes de travail. En tout cas, un grand merci à notre premier panel, Christelle Charvet, donc gynécologue obstétricienne homéopathe, Marc Soubiran, le directeur général de l'Institut supérieur de rééducation psychomotrice, Lynn Vissoveil, la présidente de Globe Educate, et Philippe Véran, président directeur général de Biotech Dental. C'est un plaisir d'animer cette table ronde.
Merci beaucoup.
À très bientôt. Merci. Et on continue avec la deuxième table ronde dans un instant. À tout
Merci.
De suite.
Colloque éthique en partenariat avec Web Radio Édition.